Allume la science. C'est
une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Pour parler du sujet d'aujourd'hui, je vais m'autoriser un petit récit personnel qui commence il y a 4 ans. Ma voisine, que j'appellerai ici Rosa, vient d'être hospitalisée en raison des suites d'un diabète qu'elle avait eu à tous et sans doute à elle-même. Rosa a 60 ans, sa tension a crevé le plafond, elle est en insuffisance rénale sévère et devra désormais faire 3 dialyses par semaine. Dans son appartement, sa maniaquerie légendaire a fait place à un capharnaüm pas très net. Résultat combiné d'une cataracte et d'une dépression toutes deux bien installées. Les jours passent, puis les mois. La dialyse officialise d'une certaine manière la maladie, mais le moral reste bas. Rose a peine à observer son traitement et à adopter de nouvelles habitudes de vie. Bientôt survient un nouveau coup dur, une plaie, et on lui ampute un orteil. La confrontation avec le service diabétologie du CHU et la réalité de l'amputation est une claque pour elle. Ici, beaucoup de patients ont perdu un pied, un mollet, parfois toute la jambe. C'est d'ailleurs le sort qui attend Rosa, qui, à l'heure où je vous parle, est en centre de rééducation où elle apprend à marcher avec sa prothèse. Et le moral va mieux, étrangement. Cette histoire est assez banale, c'est celle du déni face à une maladie qui progresse lentement et vous laisse croire que vous pourrez continuer à vivre normalement, car c'est bien ce que l'on souhaite tous quand la maladie s'invite, vivre le plus normalement possible. Alors heureusement, les traitements progressent et améliorent toujours un peu plus la qualité de vie des personnes diabétiques. La pompe à insuline a été une première révolution et aujourd'hui, les systèmes automatisés d'administration d'insuline. Notre invité co-signe une étude sur les impacts psychosociaux d'un de ces systèmes automatisés d'administration d'insuline comparé à une thérapie par pompe à insuline. On va en parler aujourd'hui. Éric Renard, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans Allume la science. Alors, vous êtes le chef du département endocrinologie et diabétologie au CHU de Montpellier, c'est bien ça ?
C'est ça.
Merci d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, comme chaque semaine pour mener cette interview, Aline Perriot.
Bonjour Lucie, bonjour tout le monde.
Bonjour Aline. En deuxième partie d'émission, nous rediffusons un reportage sur Colibri, le système d'assistance circulatoire extracorporelle le plus léger au monde, et c'est au CHU, cette fois-ci encore. Enfin, pour terminer cette émission, nous vous proposons de redécouvrir LumLu, la version audio du magazine Lum. Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57.
Alors, pour bien comprendre ce dont on va parler, c'est-à-dire les bienfaits psychosociaux des systèmes automatisés d'administration d'insuline, on va commencer par parler du diabète. Cette maladie, il en existe deux types, le type 1 et le type 2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer assez rapidement cette pathologie ?
Oui, donc le diabète, en fait, c'est un excès de sucre dans le sang. Donc c'est une maladie qui est très fréquente, puisqu'on estime qu'il y a à peu près 5 millions de personnes en France qui sont affectées d'un diabète. Alors, la plupart sont affectées du diabète de type 2. 92% des gens ont un diabète de type 2. Donc c'est un diabète qui se révèle souvent après l'âge de 40 ans, qui s'installe de manière sournoise et progressive, qui ne nécessite pas un traitement par l'insuline au départ et pendant de nombreuses années, jusqu'à ce que le pancréas ne soit plus capable de sécréter de l'insuline, et dans ce cas-là, ça devient un diabète insulino-traité. Deuxième type de diabète, c'est le diabète de type 1, qui lui est une maladie auto-immune, qui survient pour un tiers des cas à peu près avant l'âge de 20 ans, donc chez les enfants ou les adolescents, et pour deux tiers des cas à l'âge adulte, plus tardivement. Alors là, c'est un diabète où on a une destruction complète des cellules qui fabriquent l'insuline, donc au niveau du pancréas. Et donc, ça veut dire que la vie dépend de l'administration d'insuline. Sans insuline, avant 1922, avant qu'on découvre l'insuline, les gens décédaient de leur diabète parce qu'il n'y avait pas de traitement pour les soigner.
Et alors, on a aussi, encore, comme le disait Lucie, des fois à l'image des personnes diabétiques qui devaient se piquer après avoir mesuré leur glycémie pour se faire eux-mêmes leur injection d'insuline. Est-ce que c'est des situations qui arrivent encore ou est-ce que désormais tous les patients ont une pompe insuline ou un équivalent ?
Alors non, la plupart des patients encore, à peu près deux tiers d'entre eux en France, ont encore un traitement par multi-injection, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se faire 4 injections d'insuline par jour, une insuline pour assurer leur vie de base et une injection d'insuline à chaque fois qu'ils vont prendre un repas qui contient des sucres.
Et ces fameuses pompes à insuline, elles sont arrivées quand pour les patients?
Alors, elles ont été développées, les pompes à insuline, dans les années 80. Elles se sont popularisées dans les années 90 et surtout à partir de l'année 2000. Mais c'était des pompes non automatisées. C'est-à-dire que les patients devaient régler leurs pompes en fonction des données de leur glycémie.
Et pour les patients, ça a changé quoi, l'arrivée de ce type de système dans leur vie, leur prise en charge?
Alors, pour les pompes, déjà, ça a permis de stabiliser davantage la glycémie que lorsqu'on fait des multi-injections. Et puis, les systèmes automatisés qui sont disponibles, eux, depuis maintenant 6 à 7 ans, ça leur a permis d'alléger encore plus la charge mentale, puisque l'intelligence artificielle qu'il y a dans ces systèmes va régler automatiquement la pompe en fonction des données de la glycémie qui est mesurée en continu par un capteur.
Alors maintenant, on parle de système automatisé d'administration d'insuline. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça change?
Alors ces systèmes donc, ont trois éléments essentiels. Une pompe à insuline qui délivre l'insuline, un capteur qui mesure le taux de glucose en permanence et des algorithmes, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle en fait, qui va, en fonction des données de la glycémie mesurée par le capteur, adapter automatiquement le débit de la pompe pour maintenir la glycémie dans la norme. Et donc, on comprend que, évidemment, ça allège beaucoup la prise en charge, puisque les patients n'auront plus à prendre une décision à chaque fois qu'ils vont voir leur glycémie changer, soit se resucrer si la glycémie baisse, soit demander à la pompe d'envoyer plus d'insuline si la glycémie monte.
Alors, donc le sujet, le dispositif dont il est question, pardon, s'appelle Omnipod. C'est un système sans tubulure. Alors, est-ce que vous pouvez nous le décrire, nous dire comment on s'en sert, à quoi ça ressemble?
Oui, alors c'est un dispositif qui, comme vous l'avez dit, donc sans tubulure. C'est-à-dire que les pompes classiques, en fait, c'est un dispositif qui est de la taille d'un téléphone portable dans lequel on va mettre une cartouche d'insuline. Et à partir de là, il y a un petit tuyau, un cathéter qui va envoyer l'insuline sous la peau. L'Omnipod, c'est une pompe patch, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tubulure, en fait. Donc, le patient va remplir son pod, qui est de la taille d'une boîte d'allumettes, et une fois que l'insuline est remplie dans le pod, il va se le patcher sur la peau, et il y a une petite canule qui va percer la peau pour que l'insuline passe dans le corps. Donc, ça, c'est beaucoup plus léger, ça c'est à changer tous les 3 jours, et ça permet d'avoir une réserve d'insuline pour les 3 jours qui viennent.
Et comment on le contrôle? On a un téléphone, c'est ça, qui sert d'interface?
Alors c'est un contrôleur, en fait, c'est une espèce de dispositif qui ressemble à un téléphone portable, effectivement, qui va permettre, puisque comme le pod est petit, il n'y a pas d'écran pour voir ce qui se passe, et donc en fait, sur ce contrôleur, en fait, les patients vont voir quelle est leur glycémie, quelle est l'insuline qui leur est administrée. Il y a des systèmes d'alerte qui peuvent dire « attention, vous risquez de faire une hyper ou une hypoglycémie ». Et donc, ils ont ce dispositif qui leur permet de voir ce qui se passe, mais qui n'est pas nécessaire en fonctionnement. C'est-à-dire que s'ils oublient leur contrôleur, en fait, le capteur va continuer à informer la pompe et l'algorithme est dans le pod. Et donc, en fait, ça va marcher tout seul. Le contrôleur ne sert que pour voir ce qui se passe et puis pour donner des informations au système. Par exemple, quand ils vont prendre un repas, ils vont dire « attention, je vais prendre un repas ». Comme ça, l'algorithme sait, en fait, qu'il va y avoir besoin de plus d'insuline. S'ils vont faire une activité physique, ils vont l'informer aussi. Ils vont dire « attention, je vais aller faire du sport dans 1 heure ». Et donc, à ce moment-là, automatiquement, l'algorithme va viser une glycémie un peu plus haute pour pas qu'il fasse de malaise hypoglycémique à l'effort.
Alors, vous nous faisiez remarquer, juste avant de rentrer en studio, que c'est un dispositif qui était permis grâce à l'IA. On en parle beaucoup pour les menaces liées à l'IA. Il y a aussi de nombreux bienfaits.
Absolument. C'est une application très positive de l'IA.
Alors, votre étude, elle porte plus spécifiquement sur l'amélioration, on l'a évoqué, du bien-être psychosocial qui est permis par ces dispositifs et qui est une dimension cruciale de la prise en charge du diabète. Comment cette maladie, elle va impacter la qualité de vie des patients et pourquoi c'est important de la mesurer, cette qualité de vie?
C'est-à-dire que quand on est diabétique traité par l'insuline, en fait, on est en permanence dans le souci de ne pas faire un malaise hypoglycémique qui peut être grave avec une perte de connaissance et qui va faire intervenir le SAMU, etc. Ou une hyperglycémie qui va être à l'origine des complications dont votre Madame Rosa, là, dont vous avez parlé, effectivement, si elle a perdu ses reins, c'est parce qu'elle était trop souvent en hyperglycémie.
Parce qu'il n'y avait pas d'observance, effectivement, du traitement. Ouais.
Et donc, effectivement, quand on est diabétique, on craint immédiat, c'est-à-dire de faire un malaise, mais aussi on craint le futur de faire des complications rénales, cardiaques, rétiniennes. Donc c'est une préoccupation permanente. dans l'immédiat, mais aussi dans l'avenir.
Et cette fameuse observance qu'on a évoquée, en fait, ça les libère, les patients, de cette question-là du traitement? C'est plus eux qui la gèrent avec ces systèmes?
C'est-à-dire qu'on diminue la charge mentale dans la prise en charge de la maladie. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus à penser en permanence à leur diabète. Quand ils vont partir à la plage, par exemple, ils n'ont pas à dire « Est-ce que je n'ai pas risque de faire une hypoglycémie? Et si je mange un sandwich sur la plage, est-ce que je ne vais pas faire une hyperglycémie ?» Et donc, s'ils doivent faire face à ça, bah, il faut qu'ils prennent avec eux leur stylo injecteur d'insuline, alors que quand il y a un système automatisé, il suffit d'informer le système qu'ils vont manger un sandwich et le système va envoyer plus d'insuline. S'ils veulent rien faire d'autre que se dorer la pilule sur la plage, eh ben ils n'ont rien à faire du tout, le système va tout régler. Donc ils n'auront pas la crainte de faire un malaise hypoglycémique en plein milieu de la plage.
Alors, on va rentrer un peu dans le détail de votre étude. C'est une étude randomisée, donc elle compare deux groupes, c'est ça?
C'est ça. Donc, en fait, on a inclus des patients qui étaient diabétiques, type 1, traités par pompe à insuline et un capteur, mais qui devaient régler leur pompe de manière manuelle et permanente. Et donc, on a tiré au sort, hein, c'est ce qu'on appelle la randomisation, pendant 13 semaines. Donc, il y a un groupe, la moitié, en fait, qui va utiliser le système automatique, et l'autre moitié qui utilise le système non automatique. Et donc, le but de l'étude, c'est de voir quels sont les bénéfices obtenus sur le contrôle glycémique et puis sur la qualité de vie, le bien-être, quand on passe au système automatique.
Alors, vous avez fait ça, donc vous l'avez dit, sur 13 semaines, un groupe d'une centaine de personnes, moitié américain, moitié français, et il fallait qu'ils aient une bonne maîtrise, entre guillemets, de leur diabète, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on a choisi des personnes qui étaient déjà assez impliquées dans la prise en charge de leur diabète, qui n'étaient pas optimaux, mais en fait qui étaient intéressés par rechercher le meilleur équilibre. Pour cette étude, c'est vrai que comme c'était la première fois, on prenait des patients qui étaient fiables, je dirais, et intéressés, motivés. Mais au-delà de cette étude, maintenant, on l'a mis en place chez des personnes qui étaient beaucoup moins impliquées et qui ont été transformées aussi par cette technologie, parce que eux qui étaient peu intéressés par leur maladie se sont mis à être très intéressés, justement, parce qu'ils étaient libérés du poids de la prise en charge.
Alors, il y a plusieurs critères qui ont été pris en compte pour mesurer les bénéfices psychosociaux de ces dispositifs, à commencer par la perception de la qualité de vie. Est-ce que c'est quelque chose qui se mesure de la même manière en Europe et aux États-Unis?
Alors, les questionnaires qui évaluent la qualité de vie, oui, sont validés internationalement. Donc, ils ont été... Alors, pour les construire, en fait, ça se fait en partenariat avec des patients, avec des groupes de patients.
Ils sont propres au diabète, c'est des patients diabétiques?
Voilà, c'est ça. C'est des questionnaires spécifiques pour le diabète. Il y a des questionnaires génériques qui sont valables pour toutes les maladies. Et puis, il y a des questionnaires spécifiques pour le diabète, justement, pour essayer de voir quelles sont les dimensions de la maladie sur la vie quotidienne. Et ces questionnaires sont validés dans toutes les langues, et en l'occurrence, pour cette étude, en anglais pour les Américains, en français pour les Français.
Alors, pour le premier questionnaire, donc, il portait sur la qualité de vie, donc liée à la santé. Vous les avez questionnés sur la mobilité, les soins personnels, les activités habituelles, la douleur et l'inconfort, et la dépression et l'anxiété. Pour chaque item, ils pouvaient s'auto-évaluer, donc absence de problème, problème modéré, problème important. Qu'est-ce que vous avez constaté? Il y a une différence avec votre dispositif?
Oui, c'est pas mon dispositif, mais...
Oui, celui auquel vous avez contribué.
Alors oui, c'est ce qui est très particulier à cette étude, c'est que les autres systèmes automatisés, très souvent, démontrent une amélioration du contrôle glycémique, comme avec celui qu'on a testé. Mais par contre, on ne voit pas de différence sur la qualité de vie, sur la tendance dépressive, sur la détresse liée à la maladie. Et là, dans cette étude, tous les index de mesure de la qualité de vie ont été positifs. Donc, ce qui est très particulier à cette étude, et sans doute à ce dispositif qui est beaucoup plus léger que les autres, c'est que les patients ont tous, de manière significative, montré que ben, ils allaient mieux, ils pensaient moins à leur diabète, ils dormaient mieux, dans leur vie quotidienne, en fait, le diabète avait pris un poids beaucoup moins lourd que classiquement.
Alors, vous avez également mesuré l'impact perçu du diabète sur la santé physique, les finances, les relations amicales et familiales, les loisirs, le travail, les études, le bien-être émotionnel, toujours à travers un questionnaire qui proposait cette fois 7 niveaux de réponse, allant d'impact très négatif à impact très positif. Là aussi, est-ce que vous avez constaté une différence entre les dispositifs classiques et l'omnipode?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette étude, en fait, tous les index, tous les questionnaires de qualité de vie, quelle que soit leur dimension que vous avez abordée, en fait, ont été positifs avec le système automatisé, c'est-à-dire sur toutes les dimensions testées, alors avec des nuances plus ou moins marquées, mais à chaque fois, c'était mieux lorsqu'ils utilisaient un système automatisé.
Et vous parlez notamment du sommeil. Le sommeil, c'est quelque chose qui est fortement dégradé par la maladie, par le diabète.
Alors, pour les patients diabétiques, en fait, leur grande crainte, c'est de faire des hypoglycémies la nuit. D'une part, parce qu'ils vont être réveillés, donc ils vont devoir se resucrer. Et puis, s'ils ne ressentent pas les hypoglycémies, eh bien, le risque, c'est de faire un malaise grave avec une perte de connaissance, une intervention du SAMU, etc. Et donc, le fait d'apporter une quiétude dans le sommeil, c'est quelque chose qui est formidable. Déjà, parce qu'ils dorment mieux, donc ils seront plus reposés quand ils se réveillent. Et puis, ils n'ont pas cette crainte, quand ils vont dormir, de dire « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais passer une bonne nuit ou est-ce que ça va être la catastrophe ?»
Alors, vous avez dû aussi évaluer par les patients la facilité d'utilisation du système. Quel retour vous en avez? Est-ce qu'ils ont trouvé ça simple? Est-ce qu'ils ont trouvé ça intuitif et fiable?
Alors, fiable, oui, puisque les résultats sont là. Il n'y a pas eu de malaise grave, il n'y a pas eu de choses inquiétantes. Efficace, oui, parce qu'ils ont vu leurs résultats glycémiques qui étaient meilleurs que d'habitude quand ils n'avaient pas le système automatisé. Et puis la simplicité d'utilisation, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas besoin de remplir un réservoir d'insuline, de mettre un cathéter. En fait, il suffit de remplir le pod, ça se fait en quelques minutes, et de le patcher. Et donc tout ça, c'est dans la gestion du traitement, c'est beaucoup plus simple.
Alors, le dernier questionnaire que vous avez utilisé, c'est le questionnaire Inspire. Alors là, il y a 22 items, et le but est de recueillir les perceptions et les expériences relatives au fonctionnement psychosocial et à la qualité de vie avec donc, ces systèmes d'aide à la personne. Qu'est-ce qui en ressort? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils ont perçu, les patients? Ils ont conscience de tous ces gains?
Alors, c'est un questionnaire Inspire qui est particulièrement intéressant parce qu'il a été construit avec les patients pour essayer de saisir parmi ces patients quelles sont justement toutes les dimensions qui les préoccupent dans leur diabète et qu'est-ce qu'ils attendent d'un système automatisé. Et donc, la différence a été aussi positive en faveur du système automatisé, Omnipod, c'est que, en fait, ça répondait pour une bonne partie à leur attente. Alors que très souvent, ces systèmes améliorent le contrôle glycémique, mais ils disent « oui, mais moi, j'attendais quelque chose de mieux que ça ». Et là, avec ce système-là, eh ben, significativement, ils disent « oui, mais là, en fait, au-delà du meilleur contrôle glycémique, ça m'a changé ma vie, ça m'a restauré une forme d'insouciance que j'avais perdue à cause de la maladie ».
Et est-ce qu'on sait, en France et à l'étranger, peut-être quelle proportion de patients diabétiques ont recours à une pompe à insuline classique par rapport à ceux qui ont un Omnipod ?
Alors actuellement on est dans la vague Omnipod, c'est-à-dire que depuis que ce système est sorti, il y a à peu près 80% des gens qui mettent un système de pompe automatisée qui choisissent ce système-là. Il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas de pompe parce qu'il y avait la tubulure, parce qu'il y avait toutes les contraintes et qui disent mais moi en fait je veux ce système-là et sur leur dit vous savez il y en a d'autres qui existent puisqu'il y en a 5 en France actuellement, ils disent non mais moi je veux celui-là parce que je vais pouvoir l'intégrer dans ma vie et c'est quelque chose que j'accepte de gérer au quotidien alors que une pompe classique, pour eux, ça représente trop de lourdeur de gestion.
Ces deux dispositifs, ils sont pris en charge de la même manière par la Sécurité sociale en France ?
Oui, oui, c'est-à-dire qu'en fait, les 5 systèmes disponibles, en fait, sont pris en charge à 100%, comme tous les soins pour les patients diabétiques. En fait, ils sont pris en charge complètement, quel que soit le niveau social, économique. On a la chance en France d'avoir un système social qui ne fait pas de frontières selon le niveau socio-économique des gens.
Et on a dit au début de l'interview qu'il concernait pour l'instant les personnes diabétiques de type 1. Est-ce qu'on pourrait envisager une ouverture au diabète de type 2?
Alors, comme je le disais en début, en fait, il y a des types 2 qui nécessitent aussi des multi-injections d'insuline. Pas au début, mais en général, au bout de quelques années, en moyenne, une dizaine d'années. Effectivement, vu les bénéfices obtenus chez les types 1, il n'y a pas de raison que les types 2 qui sont sous le même traitement ne puissent pas avoir accès à ces thérapeutiques. Là aussi, il faudra faire des études pour le démontrer, évaluer le bénéfice sur le plan du contrôle glycémique et puis le bénéfice sur la qualité de vie, de la même façon qu'on a fait pour les types 1.
Eh bien, je vous remercie beaucoup, Eric Renard, c'était passionnant.
Avec plaisir.
On va passer maintenant à notre reportage, Aline.
Oui, alors nous restons dans le domaine de la santé et au CHU de Montpellier en rediffusant un reportage consacré au système d'assistance circulatoire extracorporelle le plus léger au monde, le bien nommé Colibri, que nous présente le docteur Philippe Godard au service d'anesthésie et réanimation de l'hôpital Arnaud de Villeneuve.
Alors, je suis le docteur Philippe Godard, je suis le chef de service du département d'anesthésie et réanimation à Arnoux-de-Villeneuve. On est dans le centre de recours régional des assistances circulatoires pour les patients en choc cardiogénique ou en arrêt cardiaque réfractaire. Alors le Colibri, c'est une évolution et une innovation d'un appareil qui est connu depuis plusieurs années en réanimation qui s'appelle l'ECMO. C'est une assistance circulatoire périphérique temporaire qui permet de suppléer la fonction du cœur et des poumons.
C'est-à-dire que pour un patient dont le cœur et les poumons ne fonctionnent pas, cet appareil-là, il va prendre le relais, il va assurer les mêmes fonctions. Comment il fonctionne ?
Oui, complètement. C'est une circulation extracorporelle qui va récupérer le sang veineux, le faire passer dans une pompe et un oxygénateur et le réinjecter dans le système artériel sous pression. Donc c'est un débit qui est continu, contrairement au cœur qui est pulsatile, mais ça va complètement remplacer les fonctions cardio-pulmonaires d'un patient qui est défaillant. L'ECMO suppose une console avec un moteur qui permet de faire tourner la pompe et de surveiller un certain nombre de paramètres. Et habituellement, ces consoles sont assez volumineuses et assez lourdes. Et même s'il existe des solutions mobiles, elles sont encore à perfectionner. Et donc, la plupart des appareils que l'on a en réanimation sont plus difficilement mobilisables pour aller chercher des patients à l'extérieur, dans d'autres établissements qui n'ont pas ces technologies, ou simplement transporter le patient pour faire des examens, passer un scanner ou une coronarographie, par exemple. Voilà, la nouvelle entité qui est le Colibri, il y a une double fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on peut l'implanter et le faire fonctionner de façon complètement autonome et être ultra mobile puisqu'il est extrêmement léger. Il pèse moins de 9 kg avec l'ensemble de l'équipement qui va dessus. Et puis, on peut ensuite le rassembler avec la station d'origine qui est un peu plus massive et qui permet d'avoir un élément fixe au lit du patient en réanimation quand on ne bouge pas et avoir des éléments de secours supplémentaires.
Comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est le parcours, par exemple, du sang dans la machine ?
Alors, en fait, tout le circuit, il n'est pas présenté là. C'est un circuit à usage unique qui est stérile et qui est connecté sur des grosses canules, des gros tuyaux qui sont mis en place dans les vaisseaux du patient, en général au niveau fémoral. La circulation se fait à travers la machine, par une pompe qui est une pompe centrifuge et qui, dans ses configurations de ce modèle-là, avec une innovation importante, c'est qu'elle est en lévitation magnétique complète pour limiter complètement les frottements et la destruction de globules rouges liés à la circulation. Et ce sang est ensuite amené à travers une membrane qui permet d'enlever le CO2 et de l'enrichir en oxygène avant de le renvoyer dans les artères et la circulation du patient.
Donc ça remplace le rôle du cœur et des poumons en même temps ?
Oui, complètement. Alors on a des configurations, alors c'est la même machine, simplement ça dépend comment on met les tuyaux dans le patient. Si on veut faire que de l'assistance respiratoire, on récupère le sang dans les veines et on le réinjecte dans les veines au plus près du cœur. Et le sang arrive déjà oxygéné vers les poumons qui ne sont pas fonctionnels. Comme par exemple dans le Covid, c'est ce qu'on a fait pour un certain nombre de patients. Ensuite, quand on veut faire une assistance cardiaque, ben là on est obligé de remplacer cœur et poumons puisque le sang est dérivé de l'organisme dans le système veineux. Donc il ne va pas passer par le cœur, il ne va pas passer par les poumons et il va être directement réadministré au patient une fois qu'il a été oxygéné.
Oui, bonjour, Frédéric Goursol, je suis infirmier perfusionniste dans le service du Dardet et nous sommes en fait une équipe de 5 infirmiers perfusionnistes au CHU de Montpellier. On gère toutes les circulations extracorporelles pendant la chirurgie cardiaque et en réanimation l'ECMO.
Et donc, qu'est-ce que ça change pour vous, cet appareil-là, le Colibri, par rapport à un appareil plus traditionnel qu'on aurait pu utiliser auparavant ?
En fait, dans le fonctionnement, assez peu de choses, puisque la technique, elle est rodée. Mais ce qu'on peut voir là directement, en fait, c'est l'encombrement du dispositif. Et donc, en fait, le Colibri amène en fait la possibilité de bouger beaucoup plus facilement. On l'a vu, on a été sollicité pas mal pendant l'épisode Covid, où nous avons eu à nous déplacer en hélicoptère ou en ambulance. Et ben, vous voyez l'encombrement de l'ancienne machine par rapport à la nouvelle. Bien entendu, on est beaucoup plus à l'aise dans une ambulance avec ce type de dispositif qui est plus léger, plus ergonomique et qui remplit en fait la même fonction que la machine précédente, mais avec un encombrement beaucoup moins important.
Et il y a combien de patients qui ont bénéficié de cette nouvelle technologie, Arnaud de Villeneuve, jusqu'à présent ?
Alors, puisque nous sommes centre référent, et on a eu la chance d'essayer ce dispositif. Et pour l'instant, il a été implanté sur 5 patients.
C'était une première en France, son utilisation ici à Montpellier ?
Alors, c'est même une première mondiale, puisque on a été le premier centre à l'utiliser en pratique clinique, avant les tests laboratoires, hein, précliniques. C'est un appareil qui a été développé en Italie. Et donc, on a eu cette opportunité de pouvoir être les premiers à le tester, à donner nos impressions et nos commentaires sur ce dispositif. Voilà, c'est une belle expérience. On va continuer ces tests. Alors, actuellement, il y a d'autres équipes en France et en Europe qui ont commencé à l'utiliser aussi. On va faire une synthèse à peu près de tous les centres, on va dire, premiers utilisateurs pour rendre compte un petit peu de nos commentaires, nos premières impressions sur le dispositif. Voilà, donc c'est une nouvelle aventure, quelque part c'est une étape hein, dans la prise en charge des patients sous assistance circulatoire.
Merci beaucoup. Et pour terminer cette émission, je vous propose de vous lire une petite histoire. Elle vous parle d'Afrique, elle sent bon la géosmine. Suivez-moi sur la route des éléphants.
Sur la route des éléphants. Et si la mémoire n'était finalement pas l'attribut le plus étonnant des éléphants ? Des chercheurs émettent l'hypothèse que les routes migratoires empruntées chaque année par les troupeaux pourraient être déterminées par un odorat exceptionnel, leur permettant de sentir la pluie de très loin.
C'est une odeur typique des systèmes écologiques dans lesquels nous nous situons, celle de la terre mouillée après des mois de sécheresse sur laquelle éclatent soudainement de violents orages. Dans ces moments-là, l'odeur est partout, très forte.
Nous sommes en Afrique australe, à la frontière du Botswana et du Zimbabwe. Dans le parc national de Wangé, Simon Chamayejam, chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, observe depuis presque 20 ans, non pas la pluie, mais les 40 000 éléphants qui peuplent cette aire protégée, grande comme la Belgique. 40 000 éléphants, eux aussi concernés par l'odeur de cette pluie, qui devient vitale quand la grande sécheresse sévit, contraignant, année après année, les matriarches et leurs troupeaux à reprendre la route en quête de cette eau si précieuse. Une grande migration, toujours auréolée du mystère dans laquelle elle s'ancre, la mémoire des éléphants. Pour tenter de documenter ce phénomène, les chercheurs, en collaboration avec l'Institution des Parcs Nationaux Zimbabwéens, équipent depuis 2009 des éléphants avec des colliers GPS afin de les suivre pendant 2 ou 3 ans. Grâce à ce dispositif, ils ont pu suivre pour la première fois les routes migratoires de ces géants, traçant parfois des lignes droites sur plus de 250 km. Ils ont également découvert que certains groupes d'éléphants ne migraient pas du tout. Mais surtout, ils ont pu confirmer que les matriarches
reproduisent les routes qui leur ont été transmises par leur mère, tout en s'ajustant aux conditions actuelles quand les points d'eau habituels sont asséchés.
Enrichissant probablement ainsi une mémoire qui pourra être mobilisée lorsqu'une nouvelle sécheresse se présentera. Une observation qui vient donc confirmer l'existence de cette légendaire mémoire d'éléphant, mais qui n'exclut pas pour autant la possibilité d'une autre explication. Celle d'un odorat éléphantesque, capable de détecter la pluie à des dizaines de kilomètres, voire davantage.
Cette odeur de terre mouillée, si caractéristique, est un cocktail de plusieurs molécules, dont la géosmine, que l'on peut reproduire synthétiquement. Nous avons donc réalisé des expériences sur des éléphants apprivoisés pour voir s'ils pouvaient sentir et identifier cette molécule.
Et la réponse est Oui. Pour compléter l'expérience et démontrer que les éléphants peuvent utiliser cette odeur comme guide lors d'un déplacement, les scientifiques prévoient de relâcher cette molécule dans l'environnement des éléphants apprivoisés afin d'observer leur réaction.
Certains chercheurs pensent qu'ils pourraient suivre l'odeur de la pluie à plus de 100 km. Ce dont nous sommes déjà certains, c'est que ce n'est pas juste la mémoire ou juste la perception qui régit ces migrations, mais bien les deux. Reste à savoir quel poids ils donnent à l'un ou l'autre.
Derrière l'intérêt écologique et scientifique de ces observations, un autre enjeu se dessine. Celui de la conservation et de la gestion de ces espèces qui, pour migrer, n'hésitent pas à franchir les frontières bien artificielles des États.
Lorsqu'un éléphant migre, il va être compté et géré par le Zimbabwe. Puis quelques mois plus tard, il sera recensé par le Botswana, alors qu'il s'agit du même animal. Cela révèle que la conservation ne peut absolument pas être pensée à l'échelle nationale.
Pour mieux gérer ces importantes populations d'éléphants, une immense zone de conservation transnationale appelée CASA, et incluant notamment le parc de Wangé, a été créée entre le Botswana, le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie et la Zambie. L'objectif ? Centraliser dans une seule et même institution l'ensemble des données relatives à ces espèces afin d'orienter au mieux les politiques de conservation en préservant notamment les corridors écologiques reliant entre elles les aires protégées. Une priorité pour ne plus entraver la route immémoriale des éléphants. Pour un atlas mondial des migrations. Partout sur la planète, des animaux migrent. Si les migrations des gnous du Serengeti sont devenues célèbres par les masses qu'elles déplacent, d'autres se sont faites plus discrètes sous la pression anthropique.
Il y a un vrai problème de conservation de ce phénomène parce qu'on a des infrastructures, des routes, des clôtures qui se construisent sur des routes migratoires.
Souligne Simon Chamaillé-Jam. Face à cette menace, une centaine de chercheurs, des ONG de conservation et la Convention sur les espèces migratoires des Nations Unies ont donc lancé, en mai dernier, le projet d'un grand atlas mondial des migrations des ongulés basé sur des données GPS et sur les savoirs locaux. Objectif ? Faire de cet atlas un outil à destination des décideurs afin de les inciter à prendre en compte les tracés des migrations lors de la construction de grosses infrastructures.
C'est peut-être utopique, mais ces constructions, qui sont parfois financées par la Banque mondiale, le FMI, ce genre de grosses institutions qui pourraient éventuellement s'emparer de cet atlas...
Espère Simon Chamaillé-Jam.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec les lauréats de ma thèse en 180 secondes. D'ici là, restez branchés.
Allume la science. La science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.